Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna de La Marseillaise pour évoquer avec elle la une du journal à paraître ce vendredi dans tous les bons kiosques. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et alors on commence cette une bien sûr avec le dossier qui porte sur les deux candidatures au label de capitale européenne de la culture du territoire de Montpellier et Sète et de capitale française de la culture du territoire d'Alès Agglomération.
Oui, oui, oui. Alors, nous avons choisi de développer ces deux sujets puisque nous a semblé intéressant de s'interroger sur le pourquoi les territoires aujourd'hui sont friands de ces labels, qui soient européens. Alors, pour la capitale européenne de la culture du territoire de Montpellier et de Sète, c'est pour un événement qui aurait lieu si le territoire est retenu en 2028.
C'est ça.
En revanche, pour Alès Agglomération, qui donc concourt au titre de capitale française de la culture, là, qui est délivrée par le ministère de la Culture, là, c'est beaucoup plus proche, c'est en 2024, et il y a un rendez-vous important le 23 novembre où Alès Agglomération va présenter son dossier, puisqu'elle a déjà franchi une étape importante. Elle est sélectionnée parmi trois territoires pour concourir. Donc, le pourquoi et puis les atouts de ces deux territoires d'Occitanie.
À lire aussi dans la Marseillaise, le premier bilan du village de transition installé à Latte et qui accueille des personnes qui survivaient, c'est bien le mot, dans les bidonvilles.
Oui, tout à fait. Donc, 6 mois après l'installation de ce village de transition, qui est quand même un outil unique qui a été mis en place, donc on revient sur ce bilan qui est, positif. Donc, Christophe Cavard, qui est responsable régional de l'association Coalia, à qui on a confié la gestion du lieu, nous explique tout le côté positif de cet endroit qui permet aux personnes de s'insérer et de trouver un toit pérenne et des emplois aussi. Et il y a aussi le volet scolarisation des enfants. Et donc, on tire ce premier bilan.
Vous pourrez lire aussi, chers auditeurs et chers lecteurs, dans cette nouvelle Marseillaise, le coup de gueule des élus communistes de Montpellier qui dénoncent la chasse aux prolos. Ça veut dire quoi, Françoise ?
Alors, en fait, on sait que les zones à faible émission, les ZFE, se mettent en place petit à petit dans les métropoles et dans les grandes agglomérations. Donc, en fait, le principe, c'est si vous avez un véhicule motorisé qui a un critère de pollution, qui est médiocre, petit à petit, vous ne pourrez plus circuler dans ces territoires avec votre véhicule. Alors, pourquoi la chasse aux prolos ? Parce que la semaine dernière, le gouvernement a annoncé que les utilisateurs de voitures qualifiées de polluantes vont être verbalisés de façon automatique. Et donc, ils expliquent pourquoi c'est de l'écologie punitive et contre-productive.
À l'approche aussi du 11 novembre, il y a des journées de commémoration, bien sûr, de la fin de la Première Guerre mondiale, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait, c'est de 14 à 18. Il y a des événements importants à Montpellier et Béziers.
Oui, tout à fait. Alors, le 11 novembre, évidemment, pour beaucoup de gens, c'est un jour férié, mais c'est surtout la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, donc 14-18, qui a été vraiment... ça a été le début slogan du XXe siècle. Et il y a deux événements importants. On a voulu mettre l'accent là-dessus parce que c'est un hommage à ces jeunes soldats, puisque c'était des jeunes qui ont été, entre guillemets, fusillés pour l'exemple. Voilà, donc il y a une proposition de loi qui a été déposée et qui a été votée au Parlement par le député Bastien Lachaud de la France Insoumise. Et là, les partis de gauche essentiellement, le Parti communiste, la France Insoumise et d'autres, se rassemblent ensemble à Montpellier et à Béziers pour rendre hommage à ces jeunes gens et aussi insister, puisqu'il reste le passage du Sénat, et connaissant la couleur politique du Sénat, ce n'est pas évident que la loi de reconnaissance de ces fusillés, de ces jeunes hommes qui ont été tués, soit accepté par les sénateurs. Donc on revient là-dessus, ça nous a semblé intéressant de prendre le 11 novembre par ce prisme-là.
Mmh. Et côté culture, la Marseillaise présente la 8e édition de Corée d'ici.
Oui, Corée d'ici. Alors, il faut savoir que à Montpellier, il y a vraiment une appétence pour la culture coréenne. Il y a aussi, on va dire, des personnes d'origine coréenne ou des Coréens qui vivent dans Montpellier et dans sa région. Mm-hmm. Et donc, pour la 8e fois, là, il va y avoir donc Corée d'ici avec des concerts, des expos, des spectacles. Et donc, on donne un peu le détail de cette édition. Et c'est important aussi parce que bon, la Corée du Sud a vécu un événement très dramatique au moment d'Halloween avec oui. beaucoup de jeunes gens qui ont perdu la vie de façon dramatique et alors que bon, c'est un pays extrêmement dynamique avec énormément de culture, et c'est un moment de partager, d'apprendre toujours de la culture de l'autre, et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre l'accent sur cette 8e édition.
Et pour finir, la Marseillaise explique la crise de fréquentation dans les cinémas qui ne semble pas s'arrêter.
Oui, ben en fait, on est dans l'effet vraiment de la pandémie. Il y a eu vraiment des changements profonds de pratiques culturelles avec évidemment les écrans, avec des offres aussi sur les plateformes qui sont vraiment une concurrence vraiment très très forte hein, pour les salles obscures. Hein. Et on voit qu'à Montpellier, globalement, il y a une baisse d'entre 20 et 30%.
Ah oui.
C'est pareil du côté gardois, hein, puisque on est allé aussi du côté des exploitants de salles, hein, à Nîmes notamment. Mmh. Il y a des gens qui retournent, mais il y a quand même une fréquentation qui est en baisse. Ça ne va pas sans poser des questions de fond hein, sur les pratiques culturelles et puis sur l'avenir de ce secteur économique.
Mmh. Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Le dossier de cette nouvelle édition de la Marseillaise, Françoise, porte sur les deux candidatures au label de capitale européenne de la culture du territoire de Montpellier 7. Donc ça, c'est pour la capitale européenne. Et aussi la candidature de capitale française de la culture du territoire d'Alès Agglomération.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons voulu vraiment comprendre pourquoi ces territoires et dans les territoires on était friands de ces labels. Mmh. Alors ce sont des labels qui permettent bon évidemment d'avoir une exposition on va dire médiatique importante hein,
oui.
Mais c'est pas la seule raison hein. C'est aussi un outil parce que il y a toute la phase de préparation par exemple pour on va commencer par la capitale européenne de la culture même si c'est un peu plus loin dans le temps puisque c'est pour 2028.
C'est ça.
Donc, il y a la démarche des territoires, hein, puisque ce sont les collectivités locales. Hein. Nous avons donc la ville de Montpellier, et la métropole Montpellier-Méditerranée, donc, et la ville de Sète et Sète Agropole. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux villes, ces deux territoires, hein, puisque ça va au-delà des villes centres, hein, qui sont Montpellier et Sète, ont décidé de travailler ensemble
oui.
avec un objectif, c'est encourager, soutenir les actions culturelles, artistiques et patrimoniales. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans la présentation et le sens du projet.
Oui.
Donc, ça montre une chose, ça montre que la culture au sens large, a pris une place très importante dans les politiques publiques locales. Voilà, ça c'est une première chose, c'est une véritable un véritable écosystème, c'est une véritable économie. Mmh. Mais il y a aussi l'ambition, à la fois évidemment, de valoriser via un label délivré là en l'occurrence par l'Europe, de valoriser cet écosystème et cette vitalité culturelle, ouais. Mais aussi de co-construire avec les acteurs culturels, que ce soit les associations, que ce soit les structures, les entreprises et les citoyens, mmh. Des projets. On a quand même au niveau de la capitale européenne de la culture Montpellier 2028, c'est le nom précis, c'est Montpellier 2028.
Oui, c'est ça.
Peut-être que ça évoluera, peut-être que ça sera Montpellier 7 2028, hein, parce que c'est un peu restrictif hein, pour l'instant. Donc il y a quand même de l'argent public qui a été mis sur la table, hein, mm-hmm. puisqu'il y a 700 000 euros. Ouais. Dans un premier temps, qui sont répartis entre des projets sélectionnés. C'est-à-dire qu'il y a la sélection dans la sélection.
D'accord.
Les territoires candidatent pour avoir le label, mais les territoires mettent aussi lancent des appels à un projet pour sélectionner eux-mêmes les projets qui peuvent être présentés et qui vont venir nourrir et charpenter le projet proposé. Mmh. Donc il y a des critères de sélection, évidemment. Alors, et ces critères de sélection montrent bien, le sens que veulent donner les territoires à cette candidature et à cette nomination au titre de capitale européenne. Donc, les axes forts de la candidature pour capitale européenne 2028, on va dire Montpellier 7, évidemment la dimension européenne, ça on ouvre, c'est une porte ouverte. Hein. Il y a aussi, ce qui est très important, la jeunesse, des tout-petits jusqu'aux étudiants.
Ouais.
Évidemment, le côté participatif, la participation citoyenne, la transformation de la cité, et c'est là qu'on voit que c'est pas simplement un temps sur plusieurs mois où on va proposer des spectacles, mm-hmm. mais on va aussi inscrire dans le temps des événements ou des structures. Hein, un autre critère, c'est occuper et intervenir dans l'espace public.
D'accord.
Avec de la diversité artistique et culturel, évidemment, la clé de réussite d'une candidature, c'est la participation des habitants.
D'accord.
Voilà, puisque il faut aussi que ce soit des propositions qui soient gratuites et accessibles. Donc, on voit qu'on touche vraiment les questions de fond, hein, l'accès à la culture. Donc, c'est pour ça que nous avons aussi choisi de faire un éclairage en interrogeant un chercheur, un sociologue, qui est Aurélien Djakouan, qui travaille beaucoup sur ces questions de la culture. C'est vraiment son objet de travail et d'étude. Il a beaucoup travaillé aussi avec un politologue que nous connaissons bien, qui est Emmanuel Négrier, sur vraiment la culture et la politique, hein, puisqu'on est sur un geste politique au sens, on va dire, pas au sens politicien du terme, mais au sens de comment on donne du sens à la cité et à la vie ensemble, du lien qui soit social, citoyen, humain. Et c'est pas en parallèle, mais la candidature de Alès Agglomération.
Oui.
Donc on est dans un territoire cévenol, mmh. qui est un territoire qui a du caractère à la fois historique et culturel. Hein. Ça permet là de faire valoir aussi l'existant. On ne sait pas trop, mais c'est bon à savoir et on le dit que sur Alès Agglomération, on n'a pas moins de 1600 établissements culturels.
Oui.
Donc c'est quand même très important. Et je crois que oui, c'est un peu plus de. Oui, c'est presque 2000. Et il y a beaucoup d'emplois à la clé. Et là aussi, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très participatif.
D'accord.
Et le 23 novembre, les élus locaux vont aller défendre au ministère de la Culture leur candidature, puisqu'ils sont ils font partie des trois territoires retenus avec Bourg-en-Bresse et l'Agglo de Montbéliard.
D'accord. Donc c'est une affaire à suivre.
Complètement. On donne déjà pas mal d'éléments dans le journal de vendredi avec justement en essayant d'expliquer pourquoi justement pour les territoires être labellisés d'un point de vue de leur vie culturelle, c'est important pour leur développement.
Allez, on passe au deuxième point de cette une de la Marseillaise, je le rappelle, à paraître ce vendredi, le premier bilan du village de transition installé à Lattes et qui accueille des personnes qui survivaient dans des bidonvilles.
Oui, tout à fait. Alors, ce sont des personnes d'origine rome ou des roms.
Oui.
Donc, des personnes qui sont très stigmatisées, il faut le dire. Ce village de transition, il répondait à deux impératifs. C'est-à-dire le fait de mettre fin au bidonville.
Oui.
Après, il y a la méthode.
Hein. Oui.
Une fois qu'on a mis fin au bidonville, la question c'est, on ne peut pas simplement détruire un bidonville et ne pas se préoccuper de l'avenir des personnes qui y survivaient.
Oui.
Donc, il y a eu un acte vraiment qui a choqué, c'est un démantèlement au bulldozer par le nouveau préfet de l'Hérault.
Oui.
Les associations qui travaillaient depuis très longtemps avec des populations concernées ont été vraiment très très choquées, surtout que tout leur travail était un peu remis en cause, en tout cas il y a eu une perte de temps.
D'accord.
Mais ça n'a pas empêché la structure d'accompagnement qui est ce village de transition de s'installer près de Montpellier, à Lattes.
Mmh.
Et 6 mois après, il y a quand même un bilan qu'on pourrait vraiment qualifier de positif.
Oui.
Puisqu'on a sur 165 personnes, ce qui représente 55 familles,
oui.
34 qui ont déjà quitté, on parle des personnes, les lieux,
oui.
Avec pour la plupart du temps un emploi et un toit sur la tête.
Donc ça veut dire que voilà. Ça marche.
Ben, disons que oui, ça marche. Donc c'est Christophe Cavard qui est responsable régional de l'association Coalia qui nous explique, qui nous dresse ce bilan. Ce qui est très important, oui, ça marche, hein, puisque tout est fait en fait pour le maître mot, c'est l'insertion. C'est l'insertion et par l'emploi, par le logement,
mmh.
Et par l'école, hein, puisqu'on a 38 enfants qui sont aujourd'hui scolarisés.
Mmh.
Et il y a eu aussi les relations avec les riverains qui voyaient pour certains d'un mauvais œil l'arrivée de ce village de transition.
Mmh.
Il y a quand même des relations qui se sont apaisé.
Ouais.
Donc voilà, donc il y a un bilan, très très positif. Donc on a par exemple une association qui s'appelle GAM,
oui.
Qui s'occupe de l'apprentissage du français, qui nous dit que 95% des enfants qui vivent encore dans ce village de transition vont à l'école.
Ouais.
Il y a carrément zéro taux d'absentéisme et ils sont évidemment des enfants, ils sont contents d'apprendre.
Et puis c'est le premier signe de l'intégration, ça, l'école,
voilà.
Passer par l'école.
Voilà. Donc donc on donne un peu le détail de ce premier bilan. Évidemment, on va suivre les choses hein, de façon très précise, hein,
ouais.
Puisque on a c'est vraiment miser sur l'insertion sociale.
Mmh.
Et c'est vrai que c'est l'État hein, qui finance le projet.
Oui.
Ce projet coûte 3 millions d'euros.
Oui.
Et il y a un véritable travail quotidien avec trois associations. Donc j'ai cité Coalia, j'ai cité GAM, il y a deux choses de l'une. Donc elle travaille aussi étroitement avec la mairie de Montpellier.
Mmh.
Et donc il y a eu aussi ce volontarisme des associations qui ont convaincu aussi la préfecture de changer un peu de regard et de méthode.
D'accord. Donc on peut dire que ce village est voué à rester puisque ça marche. N'est pas, on dit
alors,
que c'est de la transition, mais ça va rester.
En fait, il doit fermer ses portes en avril 2024.
D'accord.
C'est comme son nom l'indique, c'est vraiment un endroit de transition.
Mmh.
C'est vraiment pour ce temps nécessaire entre passer de l'horreur d'un bidonville à un logement, on va dire, c'est tous les paramètres de l'insertion, que ça soit la formation, l'emploi, la scolarisation, sont possibles dans ce cadre-là. Et donc, il y a vraiment un pari qui est en train d'être gagné. Mmh. Voilà. Donc, ce que disent les associations, c'est que à partir du moment où on donne aux gens un hébergement digne, ils s'intéressent à d'autres préoccupations. Quoi. Voilà.
Oui, c'est si simple que ça.
Voilà.
Allez, on passe au coup de gueule des élus communistes de Montpellier qui dénoncent la chasse aux prolos après l'annonce du gouvernement de verbaliser les utilisateurs de voitures qualifiées de polluantes.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, à partir de 2024, ça c'est le gouvernement qui l'a annoncé la semaine dernière, les propriétaires des véhicules dits polluants dans les zones à faible émission, mmh. c'est-à-dire des endroits où on ne peut pas circuler si la voiture est trop polluante, ça a été mis en place récemment sur la métropole de Montpellier.
Hein, avec les fameuses vignettes.
Avec les fameuses vignettes critères. Et donc, cette verbalisation, évidemment, les élus communistes de la métropole poussent un coup de gueule assez salutaire de notre point de vue,
oui.
puisque, en fait, au-delà de la dénonciation du caractère injuste et antisocial de la mesure, ils mettent l'accent, notamment bon, Clara Jiménez et Hervé Martin, qui sont respectivement tous deux élus à la métropole. Clara Jiménez est vice-présidente et Hervé Martin, il est adjoint au maire de Montpellier. Donc il y a eu cette annonce le mardi 25 octobre, mais dans le même temps, ces élus nous apprennent que la SNCF, donc dont l'État est actionnaire, va diminuer et va diviser le nombre de trains, de TGV, qui font la liaison entre Montpellier, entre la France et Barcelone.
Ouais.
Or, ça concerne la 9 qui est l'autoroute, mmh. et donc ils disent que supprimer des trains qui sont un moyen de locomotion non polluant, ça va augmenter fortement la pollution de cette autoroute A9, mmh. qui est l'endroit le plus pollué de Montpellier.
Eh oui.
Donc,
malgré la déviation qui a été faite il y a quelques années.
Oui, oui. Il y a vraiment... c'est vraiment divisé par deux le nombre de TGV. Hein, donc, cette augmentation du trafic routier sur la 9, c'est quelque chose d'aberrant de leur point de vue.
Mmh.
Et ils nous expliquent qu'on sanctionne les plus pauvres et les classes moyennes par un permis de polluer,
mmh.
parce que ceux qui ont les moyens pourront continuer, hein, dépendant des revenus. Et en même temps... au nom de la concurrence, ben on supprime les alternatives.
Mmh.
Donc il faut savoir que les aides qui ont été annoncées par l'État pour soutenir l'achat d'un véhicule électrique sont complètement en deçà des besoins pour les personnes qui ont des revenus très faibles.
Oui.
Donc voilà, ça nous permet de revenir sur une question très très importante, hein, qui est évidemment, il faut absolument lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut savoir aussi mettre en œuvre des politiques cohérentes,
oui.
qui n'oublient personne sur le bord du chemin. Quoi.
Oui, oui, et puis on sait très bien que le punitif n'a jamais très bien marché en France.
Voilà.
Nous approchons du 11 novembre, Françoise, et la Marseillaise met à l'honneur une journée de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale de 14-18. Il y a deux événements importants à Montpellier et à Béziers.
Oui, tout à fait. Alors, on a choisi de prendre le prisme de mettre en avant deux rassemblements qui sont sous le signe de la paix.
Ouais.
Donc, c'est à l'initiative de la Libre Pensée. Et c'est soutenu notamment par le Parti communiste, la France insoumise, des syndicats et des associations.
Mmh.
Donc c'est le 11 novembre. Donc le rassemblement à Montpellier, ça sera place Jean Jaurès.
Ouais.
C'était vraiment la place idoine pour l'organiser.
Oui.
Hein. Grand pacifiste assassiné avant le début de la Première Guerre mondiale pour ses positions justement pacifistes.
Mmh.
Hein. Le deuxième rassemblement donc a lieu à Béziers. Ça sera à 15h et à 10h à Montpellier, donc le 11 novembre, si les auditeurs peuvent le noter. Et puis, ils peuvent retrouver aussi toutes les informations pratiques dans la Marseillaise de vendredi. Et donc, ils mettent aussi l'accent, ces deux rassemblements et ces associations, donc ce rassemblement pour la paix, sur la réhabilitation, la revendication de réhabiliter ce qu'on a appelé des jeunes soldats fusillés pour l'exemple par l'armée française.
Il y en a eu beaucoup.
Eh bien, il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et fusillés pour l'exemple proprement dit, il y en a eu 639. Mais c'est déjà trop.
Oui.
C'est déjà énorme. Donc c'est pour laver leur honneur et réhabiliter leur mémoire. Hein.
Ouais.
Il a été très sali que le député Bastien Lachaud, donc France Insoumise, et il a déposé une proposition de loi qui a été adoptée en janvier 2022, mais qui doit passer devant le Sénat, dont on connaît le conservatisme. Hein, donc, ces deux rassemblements ont pour but de commémorer, de se souvenir de cette... De cet événement, dramatique, qui a fait des dizaines de millions de morts, et de se souvenir aussi de ces jeunes gens qui ont été fusillés de façon injuste.
Oui.
Donc, il rappelle que, notamment, il y a des fusillés qui ont été déjà réhabilités dans beaucoup de pays, notamment en Grande-Bretagne.
Oui.
Il y a eu des révoltes. Alors, il rappelle pourquoi c'était quand même révoltant d'être envoyé à la boucherie.
Mmh.
Et on a Patrice Sifflet, qui est de l'Union des retraités Force ouvrière, qui espère, lui, de voir ce terme qu'il qualifie de sordide, de fusillé pour l'exemple, disparaître.
Oui.
Et donc, il a un témoignage un peu fort. Il dit que la plupart de ces jeunes gens se sont fait trouer la peau pour indiscipline, alors que ce sont toujours les intérêts économiques du patronat qui guident les guerres. Donc on voit bien que là, il y a aussi une référence à ce qu'on vit en Europe ou dans le monde actuellement,
oui.
Avec les guerres passées et actuelles. Hein.
On pourrait faire l'analogie avec la mobilisation partielle de la Russie, par exemple, où beaucoup de Russes ne veulent pas aller se battre et ils sont emprisonnés.
Exactement. Voilà, donc on a Nicolas Cossange aussi, qui est le responsable communiste dans l'Hérault, qui dit qu'il est temps d'arrêter de nourrir la surenchère militaire, et qu'il faut œuvrer pour la paix.
Oui.
Donc on est sur un sujet à la fois de commémoration, mais complètement ancré dans les questions contemporaines.
Mmh.
Et au niveau des communes et des territoires, bon, il y a des gens qui militent sur ces questions fondamentales. Et c'était pour nous important de le souligner. Et je terminerai par une très belle citation de Paul Valéry.
Mmh.
Qui disait que la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas.
C'est ça, c'est ça.
Voilà.
Et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez sur le fusillé, pour l'exemple, à l'époque, la grande muette, comme on l'appelait, avait le fusillement ou le fusillage, je ne sais pas comment on dit, très facile envers ses soldats quand même.
Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Allez, on rejoint la culture maintenant, où la Marseillaise présente la 8e édition de Corée d'ici. Qu'est-ce que c'est, Françoise ?
Alors, Corée d'ici, c'est une sorte de festival qui est, comme son nom l'indique, tourné vers ce beau pays, la Corée du Sud, avec une culture extrêmement riche, à la fois ancestrale et très moderne et très contemporaine. Hein. On voit le succès de la K-pop chez les jeunes dans le monde entier. Il y a des jeunes qui se mettent au coréen, qui vont en Corée parce qu'ils sont complètement subjugués par cette vitalité. Et donc, on a à Montpellier, donc ça se passe à Montpellier, et on a à Montpellier un véritable amour pour les arts coréens.
Mmh.
Et donc, c'est pour ça que ce festival continue. Et donc, comme nous l'explique Jung Ho Nam, qui est donc la personne qui s'occupe de la programmation, il y a une dualité entre tradition et modernité. Hein. Elle dit que la culture coréenne, elle est bâtie sur le contraste. Hein. Et donc, elle dit qu'il y a des résonances vraiment à Montpellier. Hein. Il y a une école coréenne, hein. Il y a l'Association des Coréens de France, hein. Il y a des grands clubs d'arts martiaux. Et c'est vrai que quand on est à Montpellier, il y a à la fois la modernité aussi, des bâtiments qui ont été construits récemment, et le côté patrimonial plus ancien qui cohabite. Et c'est ce qu'elle nous explique, c'est que c'est vraiment frappant de voir ces similitudes entre, on va dire, des villes comme Séoul, qui sont des mégapoles, hein, qui sont une grande mégapole, et une ville comme Montpellier, qui est évidemment beaucoup plus à échelle humaine, avoir des résonances comme ça sur le plan aussi architectural. Et puis, la culture, la véritable culture coréenne, à la fois traditionnelle, puisque on a un groupe qui va donc se produire le 12 novembre à la Maison des Chœurs avec un instrument qui s'appelle, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, c'est le geomungo, c'est-à-dire c'est un instrument traditionnel de Corée, une sorte de, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, de guitare. Ouais. C'est une sitar, voilà, plutôt.
D'accord.
C'est plus juste. Voilà. Et donc, ce groupe Black String mélange à la fois le traditionnel et le contemporain et l'électro. Donc ça va être un moment assez, je pense, surprenant. Et puis, on a aussi de la danse, hein, puisque Jung Ho Nam est danseuse et chorégraphe. Elle est installée à Montpellier depuis presque 30 ans, 1993. Et donc, elle programme plusieurs solos de la danse contemporaine qui est interprétée par des danseuses. Il y a des artistes aussi franco-coréens qui vont faire découvrir aussi leur chorégraphie. Hein. Ça fait, ils ont passé une semaine en résidence. Ils vont jouer à... Alors, il y a aussi Castelnau-le-Lez qui va proposer aussi de la musique et des danses traditionnelles coréennes. Voilà, donc on a vraiment, évidemment, et puis le 13 novembre, le festival qui invite le K-pop sur scène. Donc ça, c'est donc on a donné les contacts, les dates dans le journal. Il y a un site kore-graphie.com où on peut tout retrouver. Et c'est un moment à la fois de découverte pour ceux qui ne connaissent pas, et puis pour ceux qui aiment, aussi de partage. Hein, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir les cultures dialoguer et se trouver des similitudes. Et c'est ça qui est fortement passionnant dans ce 8e festival Corée d'ici, qui porte très bien son nom d'ailleurs.
Oui, absolument. Et pour finir, Françoise, la Marseillaise explique aussi la baisse de fréquentation qui perdure dans les cinémas.
Oui, parce que c'est vraiment une baisse de fréquentation que l'on qualifie d'historique, hein, à l'appui des témoignages que nous avons recueillis chez les exploitants de salles. Hein. Alors, on aurait pu penser que après le confinement, il y avait un petit temps d'adaptation, le public, comme pour le spectacle vivant où c'est le cas, hein, allait revenir dans les salles obscures, mais elles se remplissent très peu. Alors, il y a des changements vraiment d'habitude structurelle, puisqu'il y a eu quand même une consommation des écrans avec des offres de plateformes qui sont des multinationales aux offres incroyables. Et donc, c'est vrai que pour résumer à gros traits, quand je ne sais pas les tarifs, mais on peut avoir un abonnement pour une dizaine d'euros avec un catalogue de films incroyable, et que le pouvoir d'achat aussi est en berne, on hésite à aller payer une place de cinéma.
Et oui.
Mais on se prive aussi d'une expérience unique de la salle obscure.
Et est-ce que vous pensez, Françoise, est-ce que ça ressort dans votre article, que les gros cinémas sont plus touchés que les petits cinémas?
Eh bien, disons que nous avons interrogé le directeur du Diagonal de Montpellier.
Ouais.
Bon, c'est un cinéma indépendant.
Oui.
Lui, il n'est pas touché par la concurrence des plateformes, nous dit-il. Mais il dit que oui, c'est juste, Bruno. Hein, c'est plutôt les films, les blockbusters américains qui le sont. Donc c'est vrai que Charlie Perrin-Higuez, donc qui est le directeur de ce cinéma, du Diagonal de Montpellier, il dit que eux, ils ont la chance d'avoir un public fidèle, qui aime aller au cinéma pour s'enrichir culturellement et découvrir des nouvelles propositions, des nouveaux cinéastes. Hein. Et il dit que ceux qui aiment le cinéma, eux, ils reviennent sans aucun problème.
Oui.
Mais il a aussi quand même s'ils reviennent sans aucun problème, il a quand même une réflexion, le Diagonal, il envisage des événements qui sont attractifs.
D'accord.
Comme les avant-premières. Hein.
D'accord.
C'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien.
Et oui.
Quand on assiste à des avant-premières, on a l'équipe du film, on peut avoir des acteurs, donc c'est quelque chose on peut avoir du débat, de l'échange. Il y a une crise de fréquentation, on va dire, des films américains. C'est ça qui ressort beaucoup.
D'accord.
Y compris dans le témoignage de Jean-Sylvain Nielsen, qui est donc lui le directeur du Sémaphore à Nîmes. On est allé aussi du côté du Gard.
Ouais.
Et lui, il refuse de parler d'une crise du cinéma. Il dit plutôt c'est une crise de fréquentation des films américains.
D'accord.
Donc, il y a quand même une touche d'espoir. Il n'empêche que les chiffres, ils sont là. Hein. Il y a quand même un seuil critique de fréquentation de 7,38 millions d'entrées en France. C'est un seuil critique qui est donné par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Oui.
Mais ça permet, je pense que l'article que nous faisons et les témoignages que nous avons recueillis montrent bien que quand on a de la réflexion, quand on travaille sur son métier de programmateur de salle, il faut peut-être que le cinéma aussi et que les salles se réinventent un peu.
Oui, et puis je pense aussi qu'il y a le problème du prix. C'est pour ça que je faisais un petit peu l'analogie entre les petits et les gros cinémas. Quand on va dans un gros multiplex, qu'on sort en famille, on s'en tire pour 40 € ou voire 50 € pour aller voir un film. Alors que dans les petits cinémas, c'est moins le cas aussi.
Tout à fait, parce qu'on a un témoignage aussi, puisque je me permets de poursuivre. Hein. On a une dame qui est une spectatrice qui a 72 ans, donc qui est à la retraite, hein, et qui explique que des tarifs entre 10 et 15 € la séance.
C'est pas possible.
Déjà, le cinéma perd, comme nous l'explique aussi le directeur du cinéma de Nîmes, hein, le Sémaphore, il nous explique bien que le cinéma perd son côté populaire, ce qui est quand même un comble pour un art éminemment populaire.
Oui.
Et donc, cette dame à la retraite nous dit qu'elle ne peut plus se permettre d'y consacrer autant d'argent.
Mmh.
Et elle rappelle aussi qu'à l'époque, c'était un lieu de rendez-vous quasi hebdomadaire avec les amis.
Oui.
Donc voilà, il faut pousser cette réflexion plus loin pour que le cinéma ne devienne pas un lieu inaccessible à beaucoup.
Et oui, quand on voit qu'on peut avoir un abonnement sur une plateforme au prix d'une séance de cinéma et où on a un catalogue ouvert, on peut comprendre que certaines personnes qui n'ont pas les moyens fassent vite ce choix, malheureusement.
Complètement, complètement.
Voilà, et merci beaucoup Françoise.
Merci à vous, à Divergence. Merci à toi Bruno.
Et puis on se retrouve évidemment à partir de la semaine prochaine pour évoquer la nouvelle une de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie. Merci beaucoup Françoise.
Avec un grand plaisir. Au revoir.
À bientôt.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.